Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 19 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud signale 13 décès dus au Covid-19. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, dit que la France est victime de mensonges et de duplicité dans l'affaire des sous-marins. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé 13 décès dus au Covid-19 et 1083 nouveaux cas de coronavirus ce dimanche. Le porte-parole de New South Wales Health, Dr Jeremy McAnulty, a déclaré que les décès comprenaient 9 hommes et 4 femmes.
One person was in their 40s, two in their 50s, two people in their 60s, five people in their 70s and three in their 80s.
La dirigeante de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, déclare qu'il est trop tôt pour dire si le nombre de cas de COVID-19 a atteint un pic, mais les signes sont encourageants.
There's not long to go, really. We're talking weeks before we get to that 70% double dose. And I don't want anyone to let their guard down. This is not the time to kick back and think it's over. We are seeing in some of those areas of concern the reproductive rate or the R factor below one, which means cases are showing, some areas are showing decline, but other areas are still growing. And it's really important for us not to get complacent.
Et à partir de demain lundi, les restrictions s'assoupliront dans les zones de préoccupation des gouvernements locaux et se rapprocheront de celles du Greater Sydney. Le Victoria a signalé 507 nouveaux cas de COVID-19 et un décès ce dimanche. Avec plus de 5000 cas actifs, les ministres et les responsables de la santé se sont réunis pour finaliser la feuille de route des restrictions. Selon les rapports, les limites de voyage seront prolongées, les repas en plein air seront de retour et les étudiants retourneront à l'école à partir du mois prochain lorsque 70% des plus de 16 ans seront complètement vaccinés. Le couvre-feu controversé de 21h devrait également être levé. Les responsables de la santé restent préoccupés par l'augmentation des épidémies de COVID-19 dans les zones des régions rurales et la banlieue nord de Melbourne. Cela survient alors que des centaines de personnes ont été arrêtées à Melbourne hier après de violents affrontements entre des manifestants et la police. 10 policiers ont été transportés à l'hôpital avec des blessures. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que le pays était en état de crise avec l'Australie et les États-Unis suite à l'annulation d'une commande de sous-marins de plusieurs milliards de dollars. Jean-Yves Le Drian affirme que la France a été victime de duplicité, de mépris et de mensonges dans la décision de l'Australie d'annuler l'accord en faveur d'un pacte avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour la construction de 8 sous-marins à propulsion nucléaire. Selon Jean-Yves Le Drian sur France 2, le rappel sans précédent par la France de ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie souligne la gravité de la crise diplomatique.
C'est très symbolique. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Le fait que pour la première fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la France, on rappelle notre ambassadeur pour consultation, est un acte politique lourd qui signifie la force de la crise qui existe aujourd'hui entre nos deux pays, aussi avec l'Australie. Quand on a un allié, on ne traite pas avec telle brutalité, une telle imprévisibilité un partenaire majeur qu'est la France. Quand on voit le président des États-Unis et le Premier ministre australien avec la compagnie de M. Boris Johnson annoncer avec tant de solennité cette rupture et ces engagements nouveaux, il y a là vraiment de quoi s'interroger sur la force de l'Alliance.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a défendu l'annulation de l'accord avec la France, niant que cela ait été fait sans avertissement. Il déclare qu'il avait déjà évoqué cette perspective lors de discussions avec le président français Emmanuel Macron. L'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, se dit toujours sous le choc de l'annulation de ce contrat. Jean-Pierre Thébault a été rappelé à Paris donc pour protester contre cette décision. Monsieur Thébault a déclaré lors d'une longue interview sur SBS French, disant qu'il était déçu de la façon dont le partenariat entre l'Australie et la France a été géré et qu'il faudra beaucoup de temps pour remédier aux relations entre les deux pays. Et nous entendrons tout à l'heure la première partie de cette interview réalisée par notre collègue Grégory Pless, donc dans le programme tout à l'heure. Le gouvernement fédéral a défendu sa gestion de l'accord sur les sous-marins, refusant de prendre la France au dépourvu avec sa décision d'annuler ce contrat. Le ministre des Finances, Simon Birmingham, a déclaré que le gouvernement français avait été informé à la première occasion de cette décision avant qu'elle ne soit rendue publique. Il a déclaré sur l'ABC que l'Australie avait discuté de ses besoins stratégiques avec la France.
This was always going to be a difficult decision in relation to France. Now, the reactions that they take and the decisions they take are, of course, matters for the French government. It in no way changes the extremely high value that Australia places on France's knowledge, history, experience, and ongoing engagement in the Indo-Pacific region. We value that enormously. We will continue to encourage France to do so.
Simon Birmingham a promis qu'il y aurait de la transparence en ce qui concerne le coût de l'annulation du contrat français. L'évacuation sanitaire de Polynésie hier de 8 malades graves du Covid-19 vers un hôpital parisien. On écoute les précisions de Marie Casadebé pour Radio France Internationale.
Jamais une évacuation sanitaire n'avait pris en charge autant de patients sur une si longue distance. Une première mondiale qui a nécessité la transformation d'un Airbus A350 de la compagnie Air Caraïbes en service de réanimation volant. 35 soignants à bord, 2 tonnes de matériel pour maintenir les malades dans un coma artificiel et tenter de reproduire les conditions d'un hôpital. Après 12 premières heures de vol, l'appareil devrait se poser ce dimanche à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, territoire français des Caraïbes. Escale nécessaire. Les 18 cylindres de 60 000 litres d'oxygène chacun doivent être remplacés. La 350 prendra ensuite la direction de Paris. L'opération n'est évidemment pas sans risque, mais elle est nécessaire. Si le nombre d'hospitalisations a reculé ces derniers jours en Polynésie, le service de réanimation du centre hospitalier reste sous forte tension. Pour le président de la collectivité, cette évacuation est essentielle pour la survie d'autres patients. Ces 8 malades ne pouvaient pas être hospitalisés dans un territoire français plus proche. Près de 130 patients des Antilles et de l'île de la Réunion ont été, pour les mêmes raisons, évacués ces dernières semaines vers la métropole.
Le Parti socialiste organise ce week-end en France son congrès à Villeurbanne. Il y a une semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle de 2022. Mais officiellement, elle n'est toujours pas la candidate du Parti socialiste. Explication de Aurélien Devernois pour RFI.
C'est un imbroglio dont le Parti Socialiste a le secret. Anne Hidalgo a beau s'être lancée dans la course présidentielle et être bruyamment soutenue par la direction du parti, officiellement, elle n'est toujours pas la candidate du PS. En cause, les statuts du parti qui imposent une élection interne. Celle-ci aura finalement lieu le 14 octobre et deux candidats pourraient faire face à la maire de Paris, l'ancien patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et surtout l'ex-ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui depuis des semaines réclamait de pouvoir défendre ses chances. Ce sera finalement le cas, mais avec un cadre strict, 30 parrainages au sein du Conseil national du PS et contrairement aux primaires précédentes, seuls les militants socialistes pourront voter. Sujet de tension, aucun débat direct et public n'est prévu entre les concurrents. Un scandale ont dénoncé les soutiens de Stéphane Le Foll qui menace de se retirer alors que Jean-Christophe Cambadélis hésite lui aussi. De toute façon, il ne gagnerait pas à juger le patron du Parti socialiste Olivier Faure alors que dans le camp Hidalgo, on se borne à se féliciter du fonctionnement démocratique du parti.
Des centaines de manifestants devant le bâtiment du Capitole à Washington pour soutenir les personnes inculpées lors de l'émeute de janvier dernier. La manifestation a été organisée par Matt Brainard, un membre du personnel de campagne de l'ancien président Donald Trump. Il déclare qu'il condamne les violences qui ont eu lieu le 6 janvier dernier.
Anybody who engaged in that kind of violence or property destruction that day deserves to be tried with a speedy trial
and found guilty, locked up for a long time. This is about the many people who were there that day who have not been charged with violence, not been accused of assaulting a police officer, destroying property, and the disparate treatment they've received.
Et puis, plus de 10 000 personnes sont sous un pont entre le Mexique et la petite ville de Del Rio, au Texas. Ils sont pour la plupart des Haïtiens qui fuient la violence et la pauvreté. Les habitants de Del Rio demandent l'aide de Washington. Reportage Thomas Arms pour RFI.
Devant la station d'essence qui fait office d'arrêt d'autocar, la majorité des gens qui attendent sont des Haïtiens. Et comme François Naomi, ils ont passé plusieurs jours sous le pont entre le Mexique et le Texas.
C'est des ponts. Beaucoup d'immigrants, beaucoup Haïtiens, Vénézuéliens, on dirait beaucoup Africains, beaucoup.
Leur ticket en main, ils sont des dizaines à attendre au soleil l'arrivée du bus. Et des habitants de Del Rio, comme Grace Yam, leur viennent en aide.
On a appris ça aux infos. Je suis sûre qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils n'ont rien. C'est tellement triste. Donc on est allé au Walmart et on a acheté de la nourriture pour les bébés et des lingettes.
Une petite coalition d'organisations leur apporte leur soutien, mais Del Rio n'a pas les infrastructures des autres grandes villes frontalières. Et le maire, Bruno Lozano, un peu dépassé, a déclaré l'état d'urgence.
Je ne pensais pas vivre quelque chose de cette ampleur. Il y a des parents avec leurs bébés là-bas. Des gens tombent inconscients à cause de la chaleur. Il fait 37 degrés. C'est vraiment difficile à décrire avec des mots, mais c'est très chaotique.
Le maire démocrate de la ville a demandé de l'aide de l'administration Biden. Près de 8000 migrants sont attendus sous le pont de Del Rio dans les prochains jours.
En Afrique, les dirigeants de la junte guinéenne ont juré que le président déchu Alpha Condé ne serait pas autorisé à s'exiler après avoir été évincé lors du coup d'État de ce mois-ci. L'annonce est intervenue quelques heures seulement après que les dirigeants du bloc régional ouest-africain, connu sous le nom de CDAO, ont rencontré le président de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, à Conakry, la capitale de la Guinée. Les dirigeants militaires ont rejeté les spéculations que les voisins ouest-africains négociaient un moyen pour que Alpha Condé quitte le pays. Le lieutenant-colonel Aminata Diallo déclare que Alpha Condé restera en Guinée.
Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang dans son pays.
En Afghanistan, les établissements scolaires ont rouvert hier, mais l'éducation des filles reste dans le flou, comme nous l'explique Carlotta Morteo pour RFI.
Maintenir le flou, l'incertitude quant à l'avenir des jeunes filles et des enseignantes femmes est depuis toujours une des stratégies employées par les talibans. Ils n'interdisent pas formellement l'éducation des filles puisque la connaissance, le savoir sont des valeurs prônées par le Coran, mais ils conditionnent l'école à leur interprétation de la charia, classe séparée pour les filles et encadrée exclusivement par des enseignantes. Or, moins de 30% des professeurs en Afghanistan sont des femmes. Sous-entendu, il y a une impossibilité structurelle d'accueillir les filles à l'école, en tout cas celles qui entrent dans l'âge de la puberté. De fait, sous les talibans, les filles ont exclusivement accès aux madrassas, les écoles coraniques, prennent des risques en allant dans des écoles clandestines ou pour les plus chanceuses, ont accès aux quelques écoles pour filles gérées par des ONG. L'enjeu aujourd'hui, c'est que la moitié du budget du ministère de l'Éducation provient de l'étranger. La question de l'école pour les filles sera donc au cœur des négociations entre les talibans et la communauté internationale.
Des milliers de militants des droits des animaux ont défilé en Espagne, appelant à l'interdiction de la corrida. Les manifestants se sont rassemblés devant les arènes madrilènes de Las Ventas, scandant « Mission abolition ». La tauromachie a lutté pour sa survie au cours des dernières décennies, avec la diminution de l'intérêt public. Un récent sondage a révélé que 47% des Espagnols étaient en faveur d'une interdiction et moins de 19% s'y opposaient. Océane Vega déclare que le sport est dépassé et cruel.
For me, bullfighting doesn't represent the culture of our country. It's suffering, torture, it's not natural and it's out of place.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, 18. Sydney, 24. Hobart, 17 degrés. Canberra, 16. Brisbane, 28. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 19 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud signale 13 décès dus au Covid-19 ce dimanche. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, déclare que la France est victime de mensonges et de duplicité dans l'affaire des sous-marins. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.